à Kaboul. Il est 18h30, 16h à Paris. Vous écoutez RFI. Alban Le Prince est là pour le journal. Bonjour Alban.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, la France et la riposte du Rassemblement National au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen, chef de file du parti, condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et donc privée de présidentielle. À l'Assemblée nationale, le sujet est dans toutes les discussions. Le cauchemar continue en Birmanie 4 jours après le puissant séisme qui a fait au moins 2700 morts selon le dernier bilan encore provisoire. Les secours s'activent dans les décombres. Nous entendrons un secouriste actuellement à Mandalay, ville la plus touchée dans la Thaïlande voisine. Après le choc, la colère, les habitants reprochent au gouvernement d'avoir mis trop de temps à réagir. Et puis cet appel à la réconciliation lancé par le pape, il exhorte les dirigeants du Soudan du Sud à faire tout leur possible pour faire baisser la tension dans le pays au bord de la guerre civile. Avalanche de réactions en France, mais aussi à l'étranger. Après la condamnation hier de Marine Le Pen, chef des députés Rassemblement National à l'Assemblée, reconnue coupable dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Elle a écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et c'est cette dernière sanction qui fait couler le plus d'encre, puisque même si elle a annoncé son intention de faire appel, elle devient de fait interdite de se présenter à la prochaine présidentielle en 2027. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes à l'Assemblée nationale pour RFI où là aussi cette décision est très commentée. L'hémicycle est en ébullition et une prise de parole était particulièrement attendue aujourd'hui. C'est celle de François Bayrou, le Premier ministre.
Oui, exactement, parce que souvenez-vous, Alban, François Bayrou s'était dit très récemment troublé par le jugement qui visait Marine Le Pen, ce qui n'avait pas manqué de choquer à gauche les socialistes en tout cas et les écologistes, mais aussi les magistrats qui estiment qu'avec ses propos, François Bayrou s'immisce dans le fonctionnement de la justice et que le Premier ministre aurait dû plutôt défendre les magistrats, défendre les fonctionnaires de l'État français. Réponse donc de François Bayrou tout à l'heure, c'était il y a environ 40 minutes dans un hémicycle bondé. Le Premier ministre affirme qu'il faut défendre puissamment et de façon inconditionnelle les magistrats dans le pays. Mais, car le Premier ministre ajoute un mais, il affirme qu'en tant que citoyen, il y a des interrogations sur l'exécution provisoire dont vous venez de parler. Et François Bayrou estime que cette décision est porteuse potentiellement de conséquences irréversibles, dit-il. Ce discours n'a toujours pas convaincu, bien sûr, la gauche. Et, a priori, même les députés du camp présidentiel sont sceptiques, puisque François Bayrou, le Premier ministre, n'a pas été applaudi après son intervention. Et en off, un député du camp présidentiel expliquait ne pas comprendre cette position de François Bayrou. Il essaie à la fois de ménager les socialistes et le Rassemblement national. Et c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, nous confiait ce député.
Merci, Victorien Villaume, en direct de l'Assemblée nationale pour RFI. Et tout à l'heure, Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, a dit personnellement souhaiter que le procès en appel de Marine Le Pen soit organisé dans le délai le plus raisonnable possible. Députés et sénateurs français qui ont trouvé un accord aujourd'hui pour restreindre le droit du sol à Mayotte, alors que depuis 2018, les enfants nés dans l'archipel doivent avoir au moins un parent résidant sur le sol français depuis au moins 3 mois au moment de sa naissance. Les parlementaires ont étendu ce délai à 1 an. Et pour les deux parents, avec une exception tout de même pour les familles monoparentales. Un ultime vote doit prochainement avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat dès jeudi. Après avoir passé 91 heures bloquées sous les décombres, une femme secourue vivante aujourd'hui en Birmanie. Un miracle 4 jours après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a fait 2700 morts selon le dernier bilan, encore très provisoire. La course contre la montre continue pour les secours aidés par 1 millier de sauveteurs venus de l'étranger à la recherche de survivants. À Mandalay, notamment, la ville la plus touchée par le tremblement de terre. Otto van Krudekeg est coordinateur de l'ONG Acted.
Everyone Tout le monde panique dès qu'on sent des répliques. Dans les zones touchées, les gens dorment à même les rues, même s'ils ont accès à leur maison ou à des abris. À Mandalay, la plupart des gens n'ont plus confiance dans les constructions et la qualité de leur architecture. Car même les bâtiments réputés solides se sont effondrés, comme les ponts par exemple. Certains immeubles de 6 étages paraissent tenir debout, mais quand on se rapproche, on réalise qu'ils faisaient avant 9 étages et que 3 se sont effondrés sur eux-mêmes. Et puis avec la chaleur, il y a aussi l'odeur insoutenable de la mort. Les gens dorment dehors, devant des maisons détruites, desquelles s'échappe l'odeur de putréfaction de leurs proches. Je crois que c'est ça le plus dur jusqu'à présent.
Un témoignage recueilli par Pierre-Olivier pour RFI. Et aujourd'hui, les Nations Unies affirment ne pas avoir observé de blocage ou de détournement de l'aide humanitaire destinée à la Birmanie. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a indiqué de son côté avoir acheminé du matériel d'urgence depuis Rangoon, la principale ville du pays, pour venir en aide à 25 000 sinistrés des régions de Mandalay et Naypyidaw. Dans la Thaïlande voisine, elle aussi victime du séisme, les équipes de secours continuent de s'activer dans les décombres de l'immeuble de 30 étages qui s'est effondré à Bangkok. Les autorités enquêtent d'ailleurs pour comprendre comment le bâtiment a pu s'écrouler en quelques secondes, piégeant avec lui des dizaines d'ouvriers, environ 80. Dans le pays, la colère monte car le système d'envoi de messages d'alerte sur téléphone ne s'est activé que plusieurs heures après le tremblement de terre. Une lenteur pointée du doigt hier par le Sénat et les Thaïlandais rencontrés par Valentin Sébron, correspondant de RFI.
Un manque de professionnalisme, tels sont les mots d'une sénatrice thaïlandaise à propos de la gestion de crise du gouvernement dans les heures qui ont suivi le séisme. En couverture du Bangkok Post aujourd'hui, la réaction jugée trop lente de l'actuelle administration face au tremblement de terre. Pini, qui se trouvait au 17e étage d'un gratte-ciel, est du même avis.
Il n'y a pas vraiment eu de plan adéquat pour aider la population thaïlandaise. C'est plutôt décevant, car quand ce genre d'événement arrive, on s'attend à ce que le gouvernement soit le premier sur qui l'on peut compter.
Comme beaucoup de Thaïlandais, elle n'a reçu aucun SMS d'alerte après les secousses. Mais heureusement, dit-elle, sa collègue Tayla, une Thaïlandaise ayant vécu un séisme à Taïwan l'an passé, était là pour la rassurer.
À Taïwan, quand les bâtiments tremblent, ça secoue juste un peu parce que les constructions sont aux normes sismiques, donc on se sent en sécurité. Et en plus, on nous envoie un message d'alerte. Les immeubles thaïlandais n'ont pas été construits pour faire face aux tremblements de terre. On a senti que les bâtiments n'étaient pas assez stables.
Au total, les autorités métropolitaines de Bangkok ont reçu 14 000 signalements de fissures dans les bâtiments, mais seuls 2 immeubles, toujours en cours d'inspection, sont jugés dangereux et leurs résidents ne peuvent pas rentrer chez eux. Valentin Sébron, Bangkok RFI.
Retour en France. Paris entend résoudre les tensions avec Alger avec exigence et sans aucune faiblesse. Déclaration il y a quelques minutes de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, à 2 heures d'une réunion avec Emmanuel Macron, le président, et au lendemain de l'appel entre le chef d'État français et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, au cours duquel ils ont acté la reprise du dialogue entre Paris et Alger. L'état de santé du pape continue de s'améliorer. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le Vatican. Le souverain pontife en convalescence après sa double pneumonie qui lui a valu près d'un mois d'hospitalisation. Malgré tout, il poursuit son travail sur la situation dans le Soudan du Sud, notamment. Dans un texte, il exhorte les dirigeants du pays à faire baisser la tension alors que le spectre d'un retour de la guerre civile plane et inquiète la communauté internationale. Les précisions du correspondant de RFI à Rome, Eric Sénanc.
Si le pape ne prononce pour l'heure plus de discours en raison de sa convalescence, le Vatican publie des textes de sa main. Dimanche, c'est vers le Soudan du Sud que le souverain pontife a tourné son regard, un pays qui lui est cher, lui qui l'a visité il y a 2 ans. Dans ces lignes, François dit suivre avec inquiétude la situation politique au Soudan du Sud. Le pape exhorte les dirigeants du pays à faire tout leur possible pour faire baisser la tension dans le pays. Cela fait déjà plusieurs années que le jeune État africain est au cœur des préoccupations pontificales et de la diplomatie vaticane. En 2019, François avait convié Salva Kiir et Riek Machar au Vatican pour une retraite spirituelle, leur embrassant les pieds dans un geste spectaculaire pour les exhorter à la paix. Aux côtés de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'église presbytérienne d'Écosse, le souverain pontife a sans cesse appuyé une démarche œcuménique au service de la réconciliation dans le pays. En visite à Djouba en février 2023, François avait sévèrement mis en garde les leaders sud-soudanais, impuissants à ses yeux de s'engager fermement à stabiliser le pays. Il est temps de tourner la page, le temps est venu de l'engagement pour une transformation urgente et nécessaire, lançait alors le chef de l'Église catholique, un appel qui semble être resté lettre morte. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Et puis au Royaume-Uni, après avoir mis son agenda sur pause pendant 3 jours en raison d'effets secondaires liés à son traitement contre le cancer, le roi Charles III a repris aujourd'hui ses activités officielles. Il est 16h10 à Paris, 14h10 en temps universel.
Les programmes de RFI sont perturbés suite à un mouvement de